France Musique.
Le Grand Courbe de Peer Gynt. J'ai terminé un nouveau poème dramatique qui paraîtra à Noël. Le titre est Peer Gynt, nom du personnage principal. Il est parlé de ce Gynt dans les contes d'Abnerson. La donnée première dont je disposais était mince. Je n'en avais que plus de liberté pour travailler selon ma fantaisie. Nous sommes en 1867, quand l'auteur dramatique Henrik Ibsen, qui réside en Italie depuis 1864, adresse quelques lignes à sa belle-mère. À la veille de ses 40 ans, Ibsen n'est plus le même homme. L'accueil fait à Brand, son grand poème dramatique et son premier chef-d'œuvre, l'a transformé. Le traumatisme causé par l'échec de sa direction du théâtre norvégien de Christiana s'estompe. Des dettes restent impayées, certes, mais sa sécurité matérielle semble assurée et surtout, il éprouve le sentiment d'être enfin reconnu. Un signe qui ne trompe pas les observateurs attentifs, il change son écriture. Ses correspondants remarquent qu'il adopte désormais une calligraphie soignée, régulière, esthétique, qu'il n'abandonnera plus. Sa silhouette se modifie. Il n'avait jamais eu les moyens de s'habiller convenablement. Ses difficultés matérielles étaient telles qu'il devait affronter les rigueurs de l'hiver en se couvrant d'un plaid percé d'un trou par où il passait la tête. Les revenus de Brand ont changé tout cela. Ils lui permettent à présent de se procurer la première des redingotes dont il ne cesserait pas de se vêtir. C'est un plaisir indescriptible que d'être assis ici le soir, à 2000 pieds au-dessus du niveau de la mer, et de jouir de la vue sur la Méditerranée, la Campanie et Rome. Des fenêtres de mon bureau, je vois dans le lointain le mont Socrate, solitaire et majestueux qui domine la vaste plaine. Bref, où que tes regards se tournent, tu as l'impression d'avoir sous les yeux le champ de bataille où l'histoire du monde a livré son combat décisif. Le voilà au pays de Catalina, à qui il a consacré sa première pièce. Ibsen est à présent un homme libre, dégagé de soucis matériels qui a mis quelques kilomètres entre lui et sa patrie, contre laquelle il a accumulé bien des griefs. Et il est stimulé par le climat méditerranéen. Il est donc mûr pour écrire son œuvre la plus célèbre, au point même que Peer Gynt va devenir un mythe indépendant de son créateur, comme Don Quichotte ou Till l'Espiègle. À l'instar de ces deux figures, mais de manière plus paradoxale s'il est possible, il va même incarner le héros symbolique de son pays. Mais qui est Peer Gynt ? Ibsen rencontre ce personnage dans Les Contes de Norvège, le recueil de récits populaires rassemblés sur le modèle des frères Grimm. Il y est question d'un personnage du même nom, à la réputation de fabulateur et de mythomane. Un anti-héros en quête de rêve et d'identité qui s'attribue systématiquement toutes les aventures que lui racontent ceux qu'il croise sur son chemin. Dans la légende populaire, il rencontre déjà un grand courbe. Un personnage, monstre, voix. Une figure invisible qu'il doit à chaque fois contourner. Chez Ibsen, la voix surgit de l'obscurité. Quand Peer Gynt lui demande qui il est, le grand courbe lui répond « Moi-même ». Peux-tu en dire autant ? Car après avoir séduit une jeune mariée, Peer Gynt, un paysan norvégien rusé et hâbleur, part à l'aventure au mépris des conseils de sa mère Az. Dédaignant l'hospitalité des trolls et l'amour de la douce Solveig, la voix lui conseille constamment de faire le détour. Peer Gynt n'a pas envie de faire le détour. Il veut passer, il veut se battre. « J'irai droit, sur ton corps », dit-il au courbe en le menaçant d'un bâton. Peer s'aperçoit alors que le combat n'est pas gagné, car la voix qui l'identifie à l'énigme change de couleur et se démultiplie. Dès le premier acte du poème, nous sommes confrontés à cette violence. Serait-ce celle des sentiments envers le père, alors le grand courbe ? Celle des traits qui lui déplaisent le plus chez ses compatriotes ? Celle que lui impose l'exil ? Peer est parti chasser. S'il rentre bredouille, il a néanmoins une histoire à raconter à sa mère, Az, qui ne veut pas le croire et qui estime que ce ne sont que des mauvais rêves de chasseur. Mais voici de quelle manière commence la chevauchée fantastique de Peer avec le bouc qu'il voulait tuer. Pan ! Je tire. Le bouc roula sur la pente. Au moment qu'il tomba, à cheval sur son dos, je lui saisis l'oreille gauche. J'allais enfoncer le couteau, près du crâne, dans l'encolure, mais il hurla, la sale bête. Dressé sur ses quatre sabots, me fit sauter d'un coup de tête et mon étui et mon couteau. Il me coinça sous la hanche, prit mon mollet dans ses cornes, me serra comme un étau, puis là-dessus prit son élan, droit vers la crête de Jandin. Dans cette fable exubérante située dans le Grand Nord, Ibsen se libère de toute contrainte de la scène. Peer Gynt est ainsi sa pièce la plus débridée et la dernière écrite en vers. L'espace est d'une totale plasticité, le temps aussi, et le récit fluctue sans cesse entre le vraisemblable et l'invraisemblable. Interrogé sur sa vie intérieure, Ibsen confie que sa création poétique est le résultat de ses états d'esprit et de ses crises morales. Qu'il laisse son imagination décrire ses visions, ses impressions sous forme d'images poétiques. Un fil guide alors les pas du poète qui tente de répondre au gré de son cheminement à la question « Qui suis-je ?» mais aussi, et sans doute plus que tout, à l'énigme du père. Qu'est-ce qu'un père ? Ibsen va tordre et détordre inlassablement le fil en faisant de nombreux détours sur une route jalonnée d'embûches. Fais le tour, fais le détour. Ibsen savait qu'il retournerait un jour au pays, mais il devrait encore faire bien des détours. Quant à Peer Gynt, il prend le chemin lumineux des librairies en 1873, puis de la scène en 1875, porté par le meilleur compositeur de la nouvelle génération, Edvard Grieg. Thank you.
À réécouter sur francemusique.fr.